Les nuits de France Culture.
En 1990, dans le cadre d'une série d'émissions autour de la mémoire ouvrière, Alain Astaud choisissait de donner la parole à un ancien député communiste, Jules Fourier. Ancien député communiste, car après avoir été une figure de tous les grands combats politiques et syndicaux des années 1930, après avoir été élu à la Chambre en 1936, il avait rompu avec le PCF en 1939, au moment du pacte germano-soviétique. Un moment resté associé à une désillusion et une blessure profonde, comme Jules Fourier le raconte lui-même dans cette émission diffusée pour la première fois sur France Culture le 26 septembre 1990.
C'est désormais une évidence, la classe ouvrière n'ira pas au paradis. Doit-elle pour autant être vouée au purgatoire? Ce n'est pas l'avis de certains historiens, notamment de Claude Pentier et son équipe, qui poursuivent la publication du dictionnaire biographique du mouvement ouvrier français de Jean Métron, mort en 1987. Le volume 37 de ce qu'il est convenu d'appeler le Métron vient d'ailleurs de paraître, et d'autres volumes suivront. Les chemins de la connaissance ont retenu cinq noms. Cinq parmi des milliers de noms qui noircissent les milliers de pages de ce livre d'or du mouvement ouvrier. Aujourd'hui, Jules Fourier. Jules Fourier est membre d'une organisation trotskiste. Il n'a rien perdu de ses convictions de 20 ans à propos de la lutte des classes. Trotskiste, il l'est devenu en rompant avec le Parti communiste au moment du pacte germano-soviétique. Ses premiers doutes, il les a éprouvés en Espagne pendant la guerre civile. Député communiste en mission, il a eu l'occasion d'assister aux pratiques brutales du dirigeant André Marty, qui menait alors la chasse aux trotskistes, aux anarchistes, dans les rangs des brigades internationales. Jules Fourier est aujourd'hui âgé de 84 ans et il vit à l'Île-Jourdain, dans le Gers.
J'étais orphelin à l'âge de 14 ans. Mon père, à 3 ans, je l'ai perdu. Il était ouvrier carrier. Ma mère a 14 ans, et alors de suite, alors j'avais une vieille tante qui était anticléricale, et alors c'est elle déjà qui m'a donné les premiers jalons, si je puis dire, de la lutte contre les grands de l'époque, c'est-à-dire les nobles, et puis les curés, surtout dans ce coin de l'Anjou réactionnaire. Alors, dès le début, et puis alors ensuite, après, j'ai été travailler à Segré, dans le Maine-et-Loire, une sous-préfecture, finalement l'apprentissage, j'avais 15 ans.
Attendez, je voudrais sur l'enfance, revenir sur un épisode qui, je crois, vous a beaucoup marqué, c'est lors du ramassage de bois.
Ah oui. Oui, alors, comme ça se faisait dans le secteur, là-bas, le jeudi, il n'y avait pas de vacances pour nous, on allait chercher du bois mort dans les futaies. Et alors il y avait un comte là, alors vraiment le type, le grand, le seigneur, le comte d'Olozon qui s'appelait. Alors je le rencontre, j'avais la brouette de bois, il veut me la faire vider, alors de suite je me dresse devant, hein. J'avais 12 ans à l'époque, alors... On connaissait la misère, c'était une misère noire. Vous pouvez pas vous figurer le chemin qu'a été accompli depuis cette période. Ça, c'était en 1917-18. Mais alors, la France a fait un pas de géant dans ce domaine-là. On vivait encore dans les provinces de l'Ouest, comme sous l'Ancien Régime. Tous les élus étaient des nobles, des marquis, des barons, des comtes, des ducs, sénateurs... député, conseiller général et maire, il dirigeait tout. Hein. Alors, c'est m'a donné. Et puis, cette vieille tante, non, qui était née en 1826, elle est morte à 96 ans. Elle était anticléricale, alors j'étais souvent chez elle par suite de la maladie de ma mère. Alors, elle m'a donné les premiers jalons. Elle m'expliquait les combats qu'il y avait eu en 93, au moment des guerres de Vendée. Hein. Alors, et puis comme j'allais à l'école laïque déjà, nous n'étions pas nombreux, on se battait contre ceux de l'école libre. C'est pour vous dire le climat qui régnait dans notre coin. Hein. Alors, elle me parlait de la Révolution française. Et alors, c'est là le commencement de départ. Je suis parti, j'ai grandi dans cet esprit-là.
C'est un petit peu par le sport, curieusement, que vous venez à la politique. Et alors, à l'époque, il y avait beaucoup d'associations, de fédérations sportives ouvrières.
C'est-à-dire, voilà, quand j'ai fini mon apprentissage, je suis descendu à Nantes. J'avais combien à l'époque 16 ans, hein, tout seul. Je ne connaissais personne là-bas. Alors, je vais au bureau de placement, puis je rencontre des camarades. J'adhère à l'association sportive ouvrière nantaise, mais déjà avec un but. Hein. Je ne voulais pas rentrer dans les clubs bourgeois, comme on disait à l'époque. Hein. Alors, l'association sportive ouvrière nantaise était formée et dirigée par des militants syndicalistes, mais de tendance anarchiste. La Confédération Générale du Travail, des syndicats révolutionnaires. Et alors, un soir, ils organisent une réunion, les sports ouvriers et les syndicats. Et c'est à la suite de ça que j'ai rentré pour la première fois, je me suis syndiqué. Mais j'étais toujours pas très d'accord sur leur position.
C'était un syndicat plutôt de tendance anarchiste.
Anarcho-syndicaliste. Mm-hmm. Et alors, comme j'avais, avec des chouidons que j'avais fréquentés à Segré, dans le département du Maine-et-Loire, alors qui étaient communistes, et qui m'avaient déjà branché sur la révolution russe, surtout à cette époque. C'était, je vous parle, dans les débuts, hein, du parti communiste, qui existait depuis 21, et ça c'était en 24. Alors j'avais une admiration sur la révolution russe. Alors je ne suis resté que quelques mois, à peine un an, à la CGTSR, qu'on appelait, la Confédération Générale du Travail des Syndicats Révolutionnaires. C'était de très bons militants, ils avaient une très bonne organisation au point de vue sportif, dirigée contre les sports patronaux, les sports de l'État bourgeois, l'association sportive des PTT, des chemins de fer. Alors, c'était la Fédération Sportive Gymnique du Travail.
Est-ce qu'il arrivait parfois que les clubs ouvriers rencontrent des clubs bourgeois et comment cela se passait-il?
Ah non.
Non, pas du tout.
Ah non, c'était entre nous. Là, moi, presque.
C'était deux mondes qui s'ignoraient totalement.
Totalement. Ensuite, il y avait des périodes où des manifestations sportives étaient interdites par le gouvernement, hein, telles que les courses cyclistes, les tours de ville, parce qu'il y avait les courses pédestres qui avaient lieu sur les tours de ville, le tour de Nantes, ou comme il y avait le tour de Paris à l'époque, alors étaient interdites. C'était des brimades contre le sport ouvrier, comme on en faisait déjà contre les syndicats. Hein.
Alors après Nantes, vous venez à Paris, et là à Paris, vous déployez une grande activité antimilitariste.
Oui.
Ce qui vous vaut d'ailleurs plusieurs séjours en prison.
Oui, j'ai passé combien, environ 6-7 mois en prison, puis alors fiché, quoi. Alors, les perquisitions, arrestations, et puis alors fiché par le patronat, ainsi de suite. Hein. Alors, c'est là que je suis rentré à la ville d'Ivry, quoi, par le parti. Hein. Alors, là-bas, à Ivry, j'étais pas permanent, quoi, mais enfin, on faisait le même travail qu'un permanent. Hein. Je prenais la parole à la porte des usines, les meetings, dans la banlieue de Paris, même en province. Hein. J'ai été secrétaire du 6e rayon du Parti communiste, le plus fort rayon du PC, dans le 15e arrondissement.
Je voudrais qu'on revienne sur l'un de vos séjours en prison, et notamment l'un de vos séjours à la santé en 1929. Il y a un épisode assez étonnant, parce que vous retrouvez là plusieurs responsables communistes, je pense à André Marty, Gabriel Péri, Étienne Fachon, et vous recevez de véritables cours politiques en prison.
Oui, tout le bureau politique et le comité central étaient, comme on disait à l'époque, et le domicile au 42 rue de la Santé. Ils étaient inculpés d'attentats contre la sûreté de l'État, hein, et intérieur et extérieur, à la suite de la journée du 1er août 1929. Hein. Alors, j'arrive là. J'avais quel âge à l'époque, environ 22-23 ans, quoi. J'étais tout jeune, avec toute la flamme révolutionnaire. Et Varagna, qui était membre du comité central, était chargé des cours politiques. Et alors, ça nous servait d'université en même temps, comme on disait.
Donc, l'administration pénitentiaire ne vous posait pas de problème pour
ça? Ah non, nous étions au quartier politique. Un quartier politique, on nous ouvrait les portes des cellules. C'était pas des cellules, c'était pas les, il n'y avait pas de verrou, c'est les simples serrures qu'il y avait aux portes. À 7h du matin, et on nous enfermait à 8h30 du soir.
Alors que vous êtes en prison, le Parti communiste vous propose comme candidat aux élections législatives de 1932.
Oui, c'est-à-dire que voilà. Je suis inculpé de provocation de militaires désobéissants aux abus de propagande anarchiste. C'était les lois scélérates qui avaient été faites sous Clémenceau au moment des attentats des anarchistes en 1895, l'assassinat de Carnot. Hein. Alors, on se défendait d'être anarchistes, on était des communistes. On luttait, comme je me rappelle, comme j'avais dit à la 13e Chambre, qui était présidée par le gendre à Peugeot, la Breitling. Alors, j'ai rien de commun avec les anarchistes, je suis un communiste, je lutte pour une véritable armée des ouvriers, des paysans, et de faire le même travail qu'ont fait nos camarades de l'Union soviétique, instaurer la société sans classe, c'est-à-dire la dictature du prolétariat, comme ça se prenait à l'époque.
Mmh. En tous les cas, le parti fait de vous un peu un symbole au moment de ces élections législatives de 1932.
Oui. 32, je suis candidat dans le 16e arrondissement, dans le quartier des Rupins,
des Nantis. Sans succès.
Ah non, mais alors je vais vous donner le bulletin de vote, comment il était fait. Hein. Alors, Jules Fourier, ouvrier peintre, syndiqué, emprisonné d'État, dans le quartier de Passy, hein, c'est-à-dire de la ville de Versailles jusqu'à l'Arc de Triomphe, hein, en descendant. Par le boulevard Victor Hugo, la rue de la Pompe, enfin tous ces grands quartiers Rupins, là, les plus riches de Paris. Hein. Alors j'avais, je sais pas, à l'époque, je crois que j'avais fait presque 1200 voix. Hein, 1200 voix. Les femmes ne votaient pas à l'époque, il y avait que les hommes. Alors mais dans ce quartier, il y avait les concierges, il y avait toutes les mansardes, là-bas, beaucoup. C'était des ouvriers, des employés, hein, de grands magasins. Alors il y avait un prolétariat, qui n'était pas nombreux, mais enfin, qui habitait les mansardes, comme on dit, hein, dans le secteur. J'étais candidat contre Hébin, républicain indépendant de la tendance de Tardieu, hein, le fameux Tardieu, ministre de l'Intérieur, hein, toute une époque de répression. Hein.
Si en 1932, vous n'êtes pas élu, en revanche, en 1936, là, vous êtes élu député.
Oui, je suis candidat dans le quartier que j'habite à Grenelle, Grenelle-Necker, la circonscription de la gare Montparnasse jusqu'au Vélodrome d'Hiver.
Élu à l'Assemblée nationale, vous êtes donc député, vous êtes un député du peuple, un député ouvrier, comme on dit à l'époque. Mmh. Mais en fait, vous ne vous êtes jamais vraiment fait à cette vie de député.
Non, c'est-à-dire que l'Assemblée du Front National n'a rien de commun avec celle que vous avez aujourd'hui. Hein. Là-bas, il y avait beaucoup de combats, la lutte physique, même on passait par-dessus les bureaux, à travers l'hémicycle, je me rappelle, avec Tixier-Mignancourt. Alors, Tixier-Mignancourt nous attaquait assez souvent. Hein. Alors, on est parti à la charge une fois sur lui, puis alors, sur les principaux députés réactionnaires qu'on appelait les pèlerins de Burgos, hein, qui avaient été remettre l'épée d'honneur à Franco à la suite de sa victoire là, sur les républicains espagnols. Alors le climat, l'atmosphère n'était pas du tout le même que celui que vous avez aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Ça n'a rien de commun. On sentait qu'il allait se passer dans les mois qui allaient suivre l'avènement du Front populaire, quelque chose, c'est-à-dire la guerre, contre le nazisme, le fascisme. On voyait ça arriver rapidement, alors ce qui donnait un climat de pré-révolutionnaire.
Vous étiez un militant de confiance, puisqu'on vous a chargé de certaines missions en Espagne,
oui.
Notamment pour acheminer des armes.
Non seulement des armes, mais le courrier de l'International communiste, le courrier qui venait directement de Moscou, qui passait par la Finlande, hein. Alors portait les valises. Justement, c'était assez dangereux parce que la cagoule travaillait en France pour Franco et essayait de pénétrer à l'intérieur des brigades internationales, qu'elle avait d'ailleurs réussi avec certains éléments belges, français non, mais des Belges avaient réussi à pénétrer à l'intérieur des brigades internationales, qui ont été démasquées par la suite et qui ont eu leur compte. Hein. Alors, le parti m'avait chargé, j'ai fait 7 ou 8 voyages, et puis j'ai été assez longtemps, plusieurs semaines en Espagne, à l'état-major des brigades internationales, à Albacete.
En 1939, vous rompez avec le Parti communiste au moment de l'annonce du pacte germano-soviétique, et plus particulièrement au moment où les soviétiques envahissent la Pologne. Vous pouvez un peu nous raconter votre entrevue avec les dirigeants communistes Duclos, Torres, à l'Assemblée nationale.
Oui, voilà. J'ai resté un mois au sein du parti et je militais dur. Hein. Je disais, voilà, le pacte, pour l'instant, il n'y a rien qui puisse gêner, entraver la paix, ainsi de suite. Hein. Mais je disais, si l'Union soviétique pénètre en Pologne, alors là, je ne suis pas d'accord. Et j'ai démissionné le 17 septembre 1939, le jour même où les troupes soviétiques rentraient en Pologne. Hein. Et alors le 17 septembre, j'annonce à la presse ma démission du parti. Hein. Une voiture vient rue, j'habite à Malakoff, alors elle arrive à mon domicile, une voiture du parti, des membres du service d'ordre, hein, ça veut tout dire. Hein. Alors, j'étais pas là. Alors, la concierge m'avertit et me dit, voilà, il y a vos camarades qui sont venus, ils reviennent une deuxième fois, ils veulent que je monte dans la voiture. Hein. J'ai dit non. Hein.
Vous pensez qu'on voulait vous intimider ou éventuellement vous éliminer?
J'ai répondu, on n'a pas que ça se menait. J'ai dit, voilà, je connais bien la route du Havre. Hein. La route du Havre, c'est par là que... Koutiepov avait pris, et puis qu'on n'a jamais revu le général Koutiepov de l'époque. Là.
Donc vous pensez qu'on voulait en fait vous éliminer?
Oui, j'ai pensé, hein. Comme ils ont essayé de le faire par la suite. Hein. Mais enfin, quand j'ai été remettre les papiers de la voiture hein, au bureau du groupe, à la chambre, il y avait Duclos, hein, et puis Cachin qui était là. Alors j'ai remis les papiers en vitesse, là. Alors on m'a traité de tous les noms, hein, de vendu à la police, pile à la patte et tout. Hein. Alors j'ai dit pourquoi, alors j'étais invendu, j'avais des responsabilités importantes, il y a quelques minutes, donc j'ai invendu, parce que je ne suis pas d'accord avec le pacte germano-soviétique.
Sur le plan personnel, comment vous l'avez ressenti?
Oh, c'était dur, hein. toute une vie, ma liberté, ma jeunesse... La famille que j'avais consacrée, tout, hein, puisque j'étais en instance de divorce et tout. Hein, j'avais tout donné au parti. Et je ne regrette rien hein, du moment que ça servait la cause.
Le jour se lève, vivons le rêve d'une société sans patron. Vive la grève, vive la grève, vive la grève des chaussons.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 26 septembre 1990. À suivre.